toute l'équipe qui était là pour nous conduire dans la louange. Voilà. Le sujet de ce matin, ça peut vous paraître un petit peu étonnant, et vous pourrez vous poser la question, mais à quoi ça sert et de quoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler? Parce que ce message, ça fait des mois que je le cogite, ça fait longtemps que j'ai à cœur de parler à l'Église de ce thème, renouveler nos pensées. Alors, il y a une chose qu'on ne voit pas. Personne de nous ne voit les ondes électromagnétiques. Personne de nous ne voit l'attraction universelle. Et pourtant, si je laisse tomber, là, je ne veux pas le faire tomber parce que j'en ai besoin, il va tomber. Et c'est là où on voit qu'elle existe. Si vous ne croyez pas aux ondes électromagnétiques, je vous dis, ben, vous savez, vous utilisez toutes les secondes presque vos téléphones, et c'est la preuve que les ondes électromagnétiques existent. Les pensées, c'est pareil. Vous savez, c'est au fond de nous-mêmes, ça nous appartient à nous, c'est pour nous, c'est notre jardin secret et on pense que c'est à nous. Mais méfions-nous, parce que les pensées qui sont au fond de nous-mêmes, ils peuvent agir à l'extérieur et ça peut les trahir. Alors, premièrement, posons-nous la question de l'importance de ce sujet. Est-il vraiment important ce matin qu'on prenne le temps et de parler, de renouveler nos pensées? Vous savez qu'une fois par mois, on a les groupes de maison. Et les groupes de maison, pour ceux qui ont pu y aller cette semaine, de dimanche dernier jusqu'à samedi, hier, le sujet était dans Jacques. Jacques, chapitre 3, verset 2 au verset 18. Et ça parle d'une chose très importante. Ça parle de la langue, ou plutôt du mauvais usage de la langue et toutes les conséquences d'une mauvaise utilisation de notre langue. L'apôtre Jacques nous a dit, vous l'avez bien vu, bien lu dans ce passage, bien discuté ensemble, qu'il y a beaucoup d'animaux féroces ont été domptés par l'homme. Même des navires puissants ont été domptés et peuvent être dirigés par un tout petit gouvernail. Alors que la langue de l'homme, ce petit bout de muscle, si j'ose le dire, je ne sais pas, il n'a pas été dompté et on est incapable de le dompter. Et Jacques donne quelque chose de très beau, l'image en disant « Une petite étincelle peut enflammer une forêt entière ». Et il dit que la langue, c'est comme un feu dévorant. Mais j'espère que vous n'êtes pas resté ici dans votre lecture, vous l'avez traité, vous êtes allé un petit peu plus loin. Le deuxième paragraphe du groupe de maison était en parlant de la sagesse. La sagesse dans l'utilisation de la parole, dans l'utilisation de la langue. Et il y a une chose importante que dit l'apôtre Jacques là-dedans, c'est que ceci, tout ceci, c'est la conséquence d'un zèle amer qui est au fond de nous-mêmes. Et là, on voit bien quand même commencer à pointer que la problématique n'est pas la langue elle-même, ce n'est que la conséquence de quelque chose qui est au fond de nous-mêmes, qui n'est pas visible. Allons-y un petit peu plus loin et regardons ensemble de l'importance du sujet en tant que commandement de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez-vous d'un commandement de Dieu où il parle de notre pensée? Dès le début, dès la sortie de l'Égypte, la traversée du désert, le Seigneur, en parlant à son peuple par Moïse, il lui a dit le premier commandement que vous savez aussi bien que moi, le plus important. Il a dit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Le Seigneur nous demande de l'aimer de tout notre cœur. Ça veut dire de toute notre volonté. Pour l'hébreu, pour les Hébreux, ce n'est pas l'endroit des sentiments, le cœur. C'est de leur volonté, leur désir. De toute ton âme, c'est là qui est plus émotionnel. Et puis après, de toute ta force, avec, en agissant, on aime le Seigneur de toute notre volonté et on veut agir pour lui dans son amour. Mais. La Vulgate, la Septante, excusez-moi, j'ai failli commettre une grave erreur. La Septante, quand elle a été traduite de l'hébreu en grec, elle a ajouté un autre mot à ce commandement. Ça peut être étonnant. Étonnant, on a toujours appris qu'un juif, les Hébreux, c'était complètement interdit de changer quoi que ce soit à un document ou à un manuscrit. Si par malheur, il y a une seule lettre de changer, le document était à détruire. Et pourtant, il y a des documents qui y ajoutent le mot de toute ta pensée. Alors, en lisant des commentaires, j'ai appris que parfois, les rabbins ajoutaient quelque chose pour expliquer une signification à un passage. Et on pense que ce que veulent les traducteurs dans la Septante, quand ils ont ajouté le mot, pour insister sur quelque chose de très important, que Dieu veut qu'on l'aime de tout notre être entier, même au plus profond de nous-mêmes, même à l'endroit où on pense qu'il est à nous. La pensée, c'est notre jardin secret. Je ne sais pas ce que chacun de vous pense. Peut-être vaut mieux. C'est notre jardin secret. On aimerait le garder pour nous. Mais l'Éternel, Dieu, veut qu'on l'aime au plus profond de nous-mêmes, notre être entier, y compris notre pensée. Tout lui y appartient. Et le Seigneur Jésus, il était en accord avec ceci. Et quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, le Seigneur ne l'a pas cité exactement tel qu'il est écrit en hébreu. De toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais le Seigneur Jésus a ajouté de toute ta pensée. Matthieu cite cœur, âme et pensée, alors que Marc cite les quatre. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le Seigneur Jésus est d'accord avec ceci. Il veut que l'amour de Dieu soit notre être entier, y compris notre pensée, la plus intime, quelque chose qui est plus intime, qu'on dit « c'est à nous, ça m'appartient à moi ». Non, on aime notre Dieu, y compris dans nos pensées. L'amour de Dieu doit s'inscrire dans notre être entier, au plus profond et secret de nous-mêmes. C'est un commandement de Dieu. d'y aller au fond de nous-mêmes, y compris dans nos pensées. Mais encore pour vous convaincre de l'utilité de cette discussion, de cette méditation avec vous ce matin, l'importance du sujet en tant que jugement. Et oui, en tant que jugement de Dieu. Déjà, le premier jugement que Dieu a établi envers l'humanité du temps de Noé, avant qu'il ait envoyé le déluge, il en a donné la cause. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient portées uniquement vers le mal. Toutes les pensées de leur cœur étaient portées uniquement vers le mal. Ce n'est pas uniquement à cause du mal qu'ils ont fait, mais aussi à cause des pensées qu'ils avaient. On verra un petit peu plus loin pourquoi. Et le proverbe même dit « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Celui qui ferme les yeux pour faire des pensées perverses. » Vous êtes-vous jamais avoir cette attitude, vous fermez les yeux et vous faites hein? Pour Dieu, on a déjà commis le mal. Et vous connaissez aussi bien que moi la parole du Seigneur Jésus, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. La pensée, pas uniquement un commandement, mais aussi important parce que ça peut être un jugement de Dieu. Qu'en est-il de l'humanité aujourd'hui vis-à-vis de ce commandement ? On va rester dans la Bible. On va regarder ce que la Bible dit. Je viens de vous citer Genèse. Je viens de vous citer Genèse. Que Dieu a jugé l'être humain de ce temps de Noé parce que ses pensées étaient tournées vers le mal. En fait, pourquoi il a jugé ? Parce que quand on pense au mal, on finit par le commettre. Un jour ou l'autre, tant qu'on continue à penser, on finira par le commettre. Ce que nous pensons, ce qui remplit nos pensées, finit par se traduire dans nos paroles. La parole est un exemple. On dit toujours quelqu'un, il a fait un lapsus. Parce qu'il est au fond de lui-même, cette pensée. Et ça sort. Je n'ai pas fait attention, je l'ai dit. Ça traduit ce qui était déjà ses pensées. Par des actes aussi. Une pensée que nous avons est une chose qui, par la suite, a beaucoup de chances, ou disons de probabilité, de se réaliser. J'aime bien ce paragraphe, ce passage en Jérémie. Jérémie, chapitre 18, verset 12, Dieu appelle son peuple pour lui dire ceci. Il lui dit, « Reviens, tu vas au-devant du malheur. » C'est l'Éternel qui parle à son peuple. Il lui dit, reviens, tu vas au-devant du malheur, cela suffit, reviens. Mais ils disent, le peuple, il répond à Dieu, ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Vous savez, ils avaient, les Juifs de ce temps-là, ils avaient quelque chose de... différent de nous. Au moins, ils savaient que ce qu'ils commettaient n'était pas bon. Mais ils le disent. Ils étaient conscients, ils le disent. Oui, nous ne voulons pas te suivre. Nous voulons suivre nos propres pensées. On peut ne pas comprendre pourquoi vous dites, mais c'est étonnant. En fait, ce n'est pas si étonnant que ça. Je vais vous donner juste un exemple et vous allez comprendre. Deux, d'ailleurs. Achaz, le père d'Ézéchias, il a fermé le temple, il a interdit le culte des dieux, il a bâti les hauts lieux pour pour adorer les dieux syriens, les dieux phéniciens. Mais la Bible nous dit pourquoi il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il a regardé la Syrie, les rois syriens, et il a vu qu'il était très fort et qu'il arrive à gagner sur Israël et sur Juda. Il a dit, donc le Dieu syrien est meilleur que mon Dieu. Donc je veux adorer ce Dieu syrien afin qu'il puisse aussi me venir en aide. La Bible nous dit que ça ne lui a pas réussi. Mais il avait une pensée. Il savait pourquoi il le faisait. Asaph, pareil. Il a dit, le méchant prospère. Pourquoi je ne ferai pas comme lui? Lui, c'était une autre question et la réponse était différente. Juste pour vous dire, ne nous étonnons pas de ça. Bien des fois, il y a une raison à cela. Elle est fausse, mais ils ont une raison. Suivant ses pensées à lui, il fallait qu'il agisse comme ça. Ils s'en rendaient compte. Mais ils le disaient. Ils avaient quelque chose quand même, on ne peut pas leur reprocher. Ils s'en rendaient compte. Et qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Probablement, on ne se rend pas compte de la même manière que le temps des Juifs, que du temps des Hébreux ou que dans des anciens temps. L'homme aujourd'hui se détourne délibérément et consciemment et construit ses propres normes de conduite. L'homme aujourd'hui, il a redéfini le bien et le mal. Vous vous rappelez le péché originel de l'homme? C'était quoi? C'était qu'il a voulu connaître lui-même le bien et le mal. Plus ou moins réussi, on n'en sait rien. Mais tel qu'il est aujourd'hui, depuis des milliers d'années, l'homme pense qu'il connaît et qu'il sait définir les normes de conduite. Je ne donne pas raison, je ne dis pas faux. Même si on a acquis une certaine connaissance quand même. Tout ce que je veux dire, c'est que par nos pensées, on pense et on croit qu'on sait ce qui est bien et qu'on sait ce qui est mal. On le redéfinit. Je laisse tout ce qui est politique, tout ce qui est social, ce n'est pas le but de la discussion, je veux rester dans le domaine biblique. Et je vous laisse vous-même extrapoler à chaque jour ce que vous pouvez rencontrer, ce que vous pouvez voir, que ce soit dans le domaine politique ou dans le domaine social. Et quelquefois, quand on dit on a raison dans nos pensées, dans notre manière d'agir, on pense qu'on a raison d'une bonne manière, quelquefois on croit vraiment avoir raison. Rappelez-vous des paroles de Pierre. Pierre, quand le Seigneur a dit à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre le premier a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et il a bien dit. Le Seigneur a dit, « C'est les pensées de Dieu qui te l'a révélé. Sois content, sois heureux. » Et il lui a dit, « Tu es Pierre, sur cette pierre je construirai mon église, ainsi de suite. » Et après il a commencé à leur parler, à leur dire que bientôt qu'il faut qu'il meure. Et qu'il faut qu'il ressuscite le troisième jour. Mais là, la pensée de l'apôtre Pierre, tout en croyant avoir raison, mais non, il a devant lui le Fils de Dieu. Il est tout puissant. Il ne peut pas mourir. La Bible a annoncé qu'il va venir et établir le royaume de Dieu sur terre. Donc, non. Il lui a dit qu'à cela ne tient... Qu'à Dieu ne plaise ceci. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Jésus? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les miennes, ne sont pas ceux de mon Père. Parfois, on croit avoir raison dans notre manière de réfléchir, dans notre manière de penser, dans notre jugement, dans notre définition de ce qu'il faut faire. Mais en réalité, ce n'est pas les pensées de Dieu. Si du point de vue de l'homme, son cœur n'est pas tourné vers le mal, parce que lui-même, il a redéfini le bien et le mal, du point de vue de Dieu, il pense mal, ils pensent mauvais. Alors maintenant, posons-nous la question, qu'en est-il de chrétiens? Parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas il y a 2000 ans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vous, c'est moi, à date d'aujourd'hui. Qu'en est-il du chrétien? Paul, tout début aux Colossiens, il va leur rappeler une chose. Et c'est bien qu'on se le rappelle aujourd'hui nous-mêmes. Nous lisons en Colossiens, tout au début, « Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Vous voyez, les pensées et les œuvres, ça se suit. Et souvent dans la Bible, ils se suivent. Quand on a des mauvaises pensées, un moment ou un autre, un jour ou un autre, un instant ou un autre, les mauvaises œuvres arrivent en conséquence à ces pensées. Il dit, vous étiez autrefois ennemis. Autrefois, Dieu merci, pas maintenant. Autrefois, avant votre conversion, avant votre nouvelle naissance, vous étiez ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Et après, il va faire quelque chose de très bien. Il va amener les Corinthiens à un raisonnement logique. Et il va leur dire la chose suivante en 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 et 5. Regardez ce qu'il va leur dire. Il va leur dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Je reviendrai à ce mot. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a trois mots importants pour nous. Forteresse, pensée captive, amenée à Christ. L'apôtre Paul est en train de schématiser la pensée humaine comme étant captive dans une forteresse. Vous savez, c'est quoi une forteresse? Une forteresse, normalement, elle est faite pour être imprenable. Normalement, il y a une rivière qui l'entoure, déjà un premier barrage. Puis il y a des grandes murailles. Parfois, il y a une autre cour interne, puis d'autres murailles. La forteresse est faite justement pour que les autres ne peuvent pas venir. C'est quelque chose de fort. Pour pouvoir l'avoir, c'est très dur et on n'y arrive pas toujours. Et à l'intérieur de cette forteresse, qu'est-ce qu'il y a? Nos pensées. Nos pensées qui sont captives. Vous pouvez me dire, merci Seigneur que tu as été capable de détruire cette forteresse par la parole de l'Évangile et que tu nous as libéré nos pensées. Et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. L'apôtre Paul a peur. L'apôtre Paul craint quelque chose de très, 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 très important. Chapitre 10, il va leur dire ça. Au chapitre 11, il va leur dire autre chose. Il va leur dire toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, j'ai peur, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent. Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens qui, normalement, la forteresse a été détruite, leurs pensées n'ont plus été captives, elles ont été ramenées à Jésus-Christ. Et pourtant, il dit, je crains que comme Satan a séduit Ève, vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de l'Évangile. Du temps d'Adam et d'Ève, la tentation, c'était qu'ils deviennent des dieux et qu'ils connaissent le bien et le mal. Mais je connais le bien, je connais le mal, je connais qu'est-ce qui est bien. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, même nous, les chrétiens, on a souvent ce raisonnement au fond de nous-mêmes. C'est ce qu'il craint, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul craint que même après avoir détruit les forteresses, notre pensée ne reste corrompue. Corrompue par notre passé, corrompue par notre environnement, corrompue par le raisonnement humain que nous bombarde tous les jours, à chaque jour. On est bombardé par un raisonnement, par une autre définition du bien et du mal, par un autre code civil. Entre parenthèses, je ne parle pas du code civil tel qu'il est. De code de comportement. Je crains, il dit l'apôtre Paul, que vos pensées ne se corrompent pas et ne se détournent pas. Il craint. Et la question qu'on se pose, ce que Paul craint pour l'église de Corinthe, ne le craignons-nous pas pour nous-mêmes aujourd'hui? Si Paul a eu peur pour les Corinthiens, il craint ça. Est-ce que ce n'est pas encore pour nous aujourd'hui craindre que nos pensées soient corrompues par de raisonnements humains? Alors, on ne va pas rester là. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Bon, un petit résumé rapide, rappelons-nous les proverbes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos mauvaises actions, ils sont le résultat de nos pensées qui sont au fond de nous-mêmes, même si on croit que c'est bon. Hein? Et le Seigneur dit quoi? Mes pensées ne sont pas les vôtres. Vos pensées ne sont pas les miennes. Alors, je vais vous dire, nous devons surveiller nos pensées et les contrôler. Écoutez, si j'ai mis 20 minutes pour vous dire ça, vous le connaissez, je n'avais pas besoin de mettre autant de temps pour vous dire, nous devons surveiller nos pensées et les contrôler. Sauf que la théorie, c'est que quand on sait tout, mais quand ça ne marche pas. Hein? La pratique, quand ça marche, mais on ne sait pas pourquoi. La théorie et la pratique, comme dans nos églises, sont réunies. Ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi. Alors, comment discerner les bonnes et les mauvaises pensées? L'apôtre Jacques, quand il a parlé de la langue, c'était un exemple pratique. Donc, maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première, la parole est notre étalon. Comment je peux savoir que ma pensée est mauvaise? Et pas celle de Nicolas, qui est différente de la mienne, ou celle de mon épouse, ou celle de toute autre personne. Il faut la comparer, j'ai marqué, à un étalon. L'étalon, c'est quelque chose de norme. Vous savez, parfois, une fois, on a fait une méditation sur... être un canon. Vous savez, c'est quoi un canon? Une fille qui a un canon, c'est quoi? Elle est tellement belle que c'est la norme. La norme de conduite. On dit que les livres canoniques dans la Bible, c'est les livres qui déterminent notre comportement, qui sont un modèle pour nous. Et là, quelle est la parole et notre canon? La parole est notre modèle. La parole est notre étalon. L'Épître aux Hébreux dit quelque chose d'important au sujet de la parole. Je n'ai pas choisi ceux de l'apôtre Paul ailleurs, parce que j'ai trouvé que celles de la lettre aux Hébreux, elles sont plus pertinentes. Celles de l'Épître aux Hébreux, elles commencent par dire « efforçons-nous ». Déjà, elles commencent bien. Il y a un effort à faire. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas juste prier, vous l'avez. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant ainsi de suite, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque.
à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Trois choses importantes. Efforcez-vous. La parole est une épée tranchante. La parole fait mal. C'est ça. Une épée, quand elle frappe, elle fait mal. Bon, là, c'est un mal pour notre bien, ce n'est pas pour nous tuer. D'accord ? Elle fait mal. Et c'est elle qui doit être le juge de nos pensées, les sentiments, les pensées de notre cœur. Il faut faire l'effort de comparer nos pensées, notre code à celle de la parole. C'est elle notre étalon. C'est elle notre canon. Mais elle est une épée et elle peut faire mal. Et bien des fois, quand je discute avec des gens, quel que soit le sujet, je ne veux pas vous les citer, ça les énerve. Parce que la parole, ça fait mal. Ce n'est pas que j'ai raison, je cite la Bible. Parce que ça chamboule notre manière de réfléchir, notre manière de penser, notre raisonnement. On n'a pas envie de réfléchir comme ça, de penser comme ça. Et la parole fait mal. Elle peut nous énerver, elle peut nous faire mal. Mais il faut savoir que c'est elle notre étalon. C'est elle notre canon. La deuxième chose, surveiller nos pensées. Et là, j'aime bien ça, je reprends maintenant les réflexions de l'apôtre Paul. Ça, il est très beau ce verset. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Comment surveiller nos pensées? La meilleure manière, c'est de dire, est-ce que le Seigneur a honte de ma pensée? Hein? Je ne peux pas dire, est-ce que mon frère a honte de ma pensée? Il ne la connaît pas. C'est mon jardin secret. Vous ne savez pas ce que je pense là de vous. Non, c'était pour rigoler. Je pense pas mal. Vous ne savez pas. Mais le Seigneur le sait. On ne sait pas ce que chacun pense. Je ne sais pas, personne ne sait qu'est-ce qu'il y a réellement dans le cœur de chacun. Mais le Seigneur le pense, le Seigneur le sait. Et là, on peut se poser la question. Est-ce que le Seigneur... de la pensée que j'ai en secret moi-même, est-ce qu'il va me louer pour cela? La pensée soit digne de louange, il dit aux Philippiens. Est-ce que le Seigneur va me louer de cette pensée que j'ai? Est-ce qu'il va me dire que ma pensée est pure, elle est saine? C'est le meilleur étalon que vous avez. Dites-vous, ne dites-vous pas comment mon frère, s'il sait ma pensée, comment il va réagir? C'est plus simple de dire, le Seigneur Jésus qui connaît ma pensée, est-ce qu'il va me louer pour cela? Est-ce que je n'ai pas honte devant lui de la pensée que j'ai, de la manière de réfléchir? Est-ce que c'est conforme à ce qu'il m'a appris? Est-ce que mes pensées sont quelque chose d'autre que ce soit ça? Il ne faut pas que ça soit comme ça. Et la troisième chose, la pratique, j'aurais pu dire, est-ce que le Seigneur ira regarder ce film que je vais regarder? Est-ce que le Seigneur lira ce livre? Est-ce que le Seigneur fera ceci, fera cela? Mais là, je vais revenir un petit peu à la parole, à quelque chose de pratique qu'on a vu la semaine dernière dans le groupe de maison. Surveillez mes paroles, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur aide aussi l'abondance de ma pensée. L'abondance du cœur que la bouche parle. Le contrôle de nos pensées, le contrôle de nos pensées doit aller avec le contrôle de nos paroles. C'est en observant la manière dont nous parlons que nous pouvons voir s'il y a encore des pensées humaines dans nos cœurs. Proverbe 32, nous lisons, « Et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. » Mais vous êtes d'accord avec moi, ce n'est que la conséquence, la parole. C'est la mauvaise herbe. On peut enlever la mauvaise herbe, Mais l'essentiel, c'est d'enlever quoi? La racine, nos pensées, qui est au fond de nous-mêmes. La pensée qu'il faut l'enlever, quelque chose qui est au fond de nous-mêmes. Renouveler nos pensées. Renouveler nos pensées. Et maintenant, pour finir, il y a une phrase que j'aime bien dans la Bible qui dit « Loin de moi la pensée de ». L'Éternel l'utilise souvent. Dieu l'utilise souvent dans la Bible. Mais il y a un endroit précis où le peuple dit à Josué « Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel, de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel, ainsi de suite. » Oubliez le contexte. Ce qui m'intéresse, c'est cette manière de dire, ils ont dit la chose suivante. Ils étaient décidés à rejeter toute pensée qui n'était pas du Seigneur. Ils ont pris cette décision. Ils ne voulaient plus, ils ne voulaient pas avoir. Loin, le Seigneur dit souvent, loin de moi d'avoir la pensée d'eux. La Bible souvent dit aussi, loin de nous d'avoir telle pensée ou telle pensée. Et le peuple avait dit, loin de nous la pensée d'eux. Loin de nous. L'effort à faire, la décision de le prendre, la décision de dire « Oui, maintenant mes pensées vont être des pensées pures. Loin de moi d'avoir des mauvaises pensées. Loin de moi d'avoir des pensées où ce n'est pas digne, où le Seigneur Jésus ne va pas me louer à cause de ces pensées. Si nous sommes décidés, le Seigneur va nous aider et nous donner la force nécessaire. C'est l'endroit le plus caché de nous-mêmes, il est le plus difficile à maîtriser. Tout ce qui est visible, on fait l'effort. Mais tout ce qui n'est pas visible, on fait beaucoup moins l'effort de le résoudre, de le renouveler. C'est pour cela que j'ai dit renouveler nos pensées. Le Seigneur va nous aider à le faire. On a parlé, on a été tous touchés par la méditation, la prédication de notre frère Étienne. Mais là aussi, je vous rappelle une chose qu'il nous a dite la semaine dernière, rien n'est impossible à Dieu. Mais il nous a dit aussi une chose, que quand l'ange Gabriel lui a dit ceci à Marie, qu'est-ce qu'elle a répondu? Je suis la servante du Seigneur, en fait je suis l'esclave du Seigneur, hein. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a accepté. Oui, rien n'est pas. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme toujours. Oui, rien n'est impossible à Dieu. Mais aussi, il y a la part de l'homme. Il faut qu'il accepte d'être transformé, d'être changé, son comportement. Loin de nous la pensée d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, comme l'apôtre Paul, Christ est ma vie. Ou on peut dire aussi que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire, il vit en moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire au fond de moi-même, c'est la pensée du Christ qui est en moi. C'est la pensée même du Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On peut dire ayez en vous la pensée, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et pour finir, je fais cette prière pour nous tous et pour moi et pour vous, que le Seigneur nous aide à bien discerner ses pensées et reconnaître celles qui ne sont pas de lui. Reconnaître celles qui ne sont pas de lui. On s'incline dans la prière et remettre ceci à Dieu. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous reconnaissons humblement que bien des fois, ces pensées au fond de nous-mêmes sont restées notre jardin secret, restées notre propre désir, et bien des fois, Seigneur, tu ne peux pas nous louer à cause de toutes ces pensées qui sont dans notre cœur. Seigneur, nous voulons remettre devant toi, et nous voulons te prier de venir, toi qui rien n'est impossible à toi, de venir nous aider, Seigneur, à savoir faire le ménage au fond de nous-mêmes, pas uniquement dans notre volonté, pas uniquement dans notre action, mais au fond, fond, fond de nous-mêmes, nos propres pensées. Viens s'il te plaît, Seigneur, et aide-nous en cela. Gloire à ton Seigneur. Amen. Merci pour votre écoute.
Merci Simon. Je propose qu'on prenne encore 2-3 minutes où nous pouvons nous incliner et puis réfléchir à ce que nous avons entendu en écoutant Simon. Je pense aussi à ce psaume qui parle aussi de cette part partagée entre Dieu, entre ce que Dieu fait et ce que nous faisons. C'est le psaume 139, verset 23, où le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur ». Examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Là, je vous propose quelques instants de silence maintenant avant que Jonathan nous donne les annonces.